Bien, donc avant de se pencher dès cet après-midi sur les pratiques des enseignants, la première table ronde de ce colloque va s'intéresser à la légitimité de l'enseignement des faits religieux, puisque pour reprendre les termes de la problématisation de cette manifestation scientifique, le penser utile et légitime suppose d'abord de ne pas le considérer comme un allant de soi de l'école républicaine. Donc nous accueillons dans le cadre de cette table ronde Isabelle Saint-Martin, directrice d'études à l'École pratique des hautes études, membre de l'Institut européen en sciences des religions, dont elle a été la directrice entre 2011 et 2018. Philippe Forêt, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne, et Pierre Kahn, professeur émérite en sciences de l'éducation ici à Caen. Donc nous allons commencer par écouter nos invités sur la question de cette légitimité. En quoi et pourquoi cet enseignement leur paraît légitime? Par rapport à quelles finalités éducatives et quelles peuvent être les limites de cette légitimité selon eux? Pierre.
C'est moi qui commence.
C'est toi qui commence. Enfin,
je fais celui qui est surpris, mais en fait, je savais que c'était moi qui commençais. Je dirais que c'est des choses qui ont été déjà évoquées par Philippe Portier ce matin et qui vont être prises par mes collègues aussi. Hein, donc ça risque d'être un peu des redondances différenciées. Ce qu'on appelle ça, des redondances différenciées, c'est un peu le secret de la pédagogie. Je dirais qu'il y a deux types d'arguments qui sont en général avancés. Enfin, deux grands types d'arguments. Il y en a peut-être un peu plus, mais il y a deux grands types, en tout cas, d'arguments qui peuvent être avancés en faveur de l'enseignement des faits religieux. Le premier argument, c'est un argument patrimonial, ce que Philippe Portier a appelé ce matin l'argument instructionniste, hein, et qui est nettement mis en avant dans le rapport que le recteur Philippe Joutard remet en 1989. C'est un rapport sur l'enseignement de l'histoire, et Philippe Joutard recommande que cet enseignement de l'histoire, et qui concerne le secondaire et pas du tout l'école primaire, Philippe Joutard recommande que dans ce rapport, il soit fait une place beaucoup plus importante à l'enseignement des faits religieux pour des raisons qui sont, dans le rapport de Philippe Joutard, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement patrimonial. C'est-à-dire que l'enseignement des faits religieux, est-il dit en substance, est nécessaire pour lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'analphabétisme culturel des jeunes générations en ce domaine, jeunes générations qui sont peu capables de saisir dans leur environnement quotidien les significations des marques historiques notamment, d'un monde qui est structuré ou qui a été structuré en grande partie par par le religieux. Cet argument patrimonial, il a été donc énoncé comme le premier grand argument en faveur de l'enseignement des faits religieux, et il est repris en grande partie dans rapport que Régis Robret remet à Jack Lang en 2002. Philippe Portier en a parlé un petit peu. Isabelle Saint-Martin en parlera plus longuement. Donc je vais être bref sur ce rapport de Bray. Mais on retrouve effectivement cet argument de type patrimonial dans le rapport de Régis Debray. Régis Debray, avec le sens de la formule qu'il caractérise, il l'énonce ainsi. Il dit que bon, enseignement des faits religieux, ça permettra au fond de jeunes parisiens de savoir que la Trinité n'est pas qu'une station de métro. Mais si on veut adapter ça à la réalité cannaise, on pourrait dire que ça permettra aux jeunes cannais de savoir que Saint-Martin n'est pas simplement qu'une polyclinique, et puis on pourrait décliner les choses évidemment dans toutes les villes de ce genre. Le deuxième argument, c'est un argument qu'on pourrait dire d'ordre civique. Ce que Philippe Portier a appelé un argument éducationniste. D'une certaine manière, cet argument, bien que ce soit toujours un enseignement qui soit pensé, comme l'a dit Philippe Portier, dans le cadre des disciplines scolaires, ce type d'argument sort quand même, en principe, l'enseignement des faits religieux du sol disciplinaire où il avait été promu pour la première fois dans le rapport Joutard, c'est-à-dire l'enseignement de l'histoire. Hein. Et selon cet argument de type civique, un enseignement des faits religieux se justifie parce qu'il permet, dans une société marquée par le pluralisme des valeurs et des convictions et des croyances, et un pluralisme d'ailleurs de plus en plus affiché, de plus en plus revendiqué, parce qu'il permet ce qu'on pourrait appeler un meilleur vivre ensemble. Au fond, c'est ce que Régis Debray appelait de ses voeux comme l'avènement d'une laïcité d'intelligence qui devait supplanter ce qu'il appelait une laïcité d'incompétence. Je ne me suis pas trompé, c'est possible, j'ai bien dit incompétence. Une laïcité d'intelligence dans le double sens, dans le sens d'intelligent dans le sens de compréhension des références religieuses de notre environnement culturel, mais aussi intelligence dans le sens de l'expression « vivre en bonne intelligence », hein, c'est-à-dire permettre finalement une ouverture sur la diversité des croyances, la diversité des convictions, telle qu'on puisse vivre dans un monde relativement harmonieux. Et là, nous sommes en plein d'une certaine façon dans la finalité civique de cet enseignement. Alors cette finalité civique, elle était déjà présente dans le rapport Joutard, mais elle y était en place seconde, elle était en retrait par rapport à l'argument patrimonial. L'argument civique, en revanche, à partir des années 1990, à partir des années 2000, va prendre de plus en plus d'importance, va devenir un argument de plus en plus central, sans que jamais l'argument patrimonial soit mis de côté. Mais il va devenir un argument au moins aussi central que l'argument patrimonial. Et c'est donc une finalité qui s'affirme de plus en plus franchement et corrélativement s'affirme de plus en plus franchement l'idée selon laquelle la laïcité n'est pas simplement un cadre juridique pour l'école ou un cadre administratif. Elle n'est même pas simplement, ce qu'elle a toujours été depuis l'école de Jules Ferry, un milieu éducatif, une espèce d'imprégnation d'une identité laïque dont les élèves s'imprégneraient progressivement. Elle devient, et encore une fois, j'insiste là-dessus, elle devient donc assez récemment, grosso modo les années 1990, les années 2000, c'est quand même dans l'histoire de la laïcité française assez récent, elle devient un objet explicite d'éducation. Et corrélativement, s'affirme même alors l'idée que, puisqu'elle devient un objet explicite d'éducation, elle relève, ou elle doit en tout cas être l'objet de préoccupations strictement pédagogiques. Le livre d'Abdennour Bidar, qui paraît en 2012, s'appelle « Pédagogie de la laïcité ». Quand même assez nouveau, c'est une pédagogie de la laïcité, c'est-à-dire la laïcité doit s'enseigner puisqu'il y a une pédagogie. Et la charte de la laïcité elle-même, qui doit être affichée dans toutes les écoles, elle est conçue, elle était aussi portée par Abdennour Bidar en 2012, et elle est conçue non seulement comme le rappel affiché dans toutes les écoles des grands principes de la laïcité, mais comme un objet de ressources, comme une ressource pédagogique, ce sur quoi des élèves peuvent et doivent travailler. Donc ce qui s'articule alors, et j'insiste encore une fois sur le caractère récent de cette articulation, c'est bien au fond le principe qui est énoncé dans le titre même de notre colloque, à savoir le principe d'un enseignement des faits religieux pour une éducation à la laïcité, en vue de une éducation à la laïcité. Finalité qui n'a nullement été première, je le répète et j'insiste là-dessus, dans la promotion de l'enseignement des faits religieux. Et c'est une finalité qui ne va nullement de soi. Un enseignement des faits religieux peut être conçu indépendamment d'une éducation à la laïcité, et une éducation à la laïcité peut être conçue indépendamment de l'enseignement des faits religieux. Et d'une certaine façon, je dirais qu'un des enjeux de notre colloque est d'essayer de donner sens à cette idée j'insiste véritablement lourdement dessus, idée assez nouvelle, selon laquelle l'éducation à la laïcité est une des fins essentielles qui légitime l'enseignement des faits religieux, et selon laquelle l'enseignement religieux est un des moyens, ça n'est évidemment pas le seul, mais un des moyens peut-être particulièrement adaptés pour cette finalité. Y a-t-il des limites des... Oui, bien sûr, il y a des limites. Je dirais que ce que je viens de dire, d'une certaine façon, le caractère... S'il s'agit de construire cette articulation, ça montre qu'elle ne va pas naturellement de soi. Hein. Ça a été dit ce matin par Vincent Lemierre, et ça a été dit dans des termes auxquels je souscris entièrement. C'est un objet qui est problématique, et il est problématique doublement. Il n'est pas simplement problématique de fait, parce qu'il y a des obstacles qu'on connaît dans une espèce de culture laïque du monde enseignant, du côté des familles, du côté des élèves, du côté même d'une certaine partie de l'administration scolaire, la formation initiale et continue n'est pas encore complètement ce qu'elle pourrait être à cet égard. Il y a ces obstacles de fait, bien sûr, mais il y a peut-être plus il y a un caractère problématique peut-être plus structurel aussi. Pourquoi ? Parce que, et ça aussi ça a été dit, donc je suis désolé de répéter des choses qui ont déjà été dites, mais ça va certainement dédouaner mes collègues d'avoir à répéter des choses que j'ai déjà dites aussi, donc ça va bien comme ça. Parce que l'enseignement laïque des faits religieux, qui se veut quand même... Si vous voulez, même si on met des guillemets à ce terme, un enseignement scientifique, c'est-à-dire leur enseignement de type culturel, historique, anthropologique, philosophique même, cet enseignement n'est pas immédiatement ni nécessairement compatible, si je puis dire, avec le langage de la foi. C'est-à-dire que j'entends bien hein, qu'il s'agit de distinguer entre croyance et savoir. Mais cette distinction, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce que, ce que disait Vincent Lemierre tout à l'heure, pour un certain nombre de croyants au moins, ils ont un rapport de vérité à l'objet de leur croyance. Et demander que ce rapport de vérité à l'objet de leur croyance soit aussi un domaine d'investigation pour la science, c'est quelque chose qui est peut-être du point de vue religieux relativement difficile à accepter. Et c'est une donnée qu'il faut évidemment prendre en compte. Mais je dirais que ce qui est vrai du côté des croyants, tout au moins de certains d'entre eux, est aussi vrai du côté de certains militants de la laïcité qui ont aussi tendance à considérer, même parmi... Je pense à certains membres du Conseil des sages, par exemple, je pense au plus haut niveau, d'une certaine façon. Hein. Je pense notamment à Laurent Bouvet, qui faisait récemment une déclaration disant que quand il y a conflit apparent entre les données de la foi et les données de la science, il faut que l'école a la responsabilité de donner la priorité aux données de la science. Donc dire qu'il y a d'un côté les croyances, de l'autre côté les savoirs, et que dans ces deux domaines, chacun peut vivre indépendamment de l'autre, et tranquillement, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas si simple. Ce sont là des problèmes qui sont des problèmes à la fois épistémologiques et pédagogiques qu'il faut absolument affronter. Le paradoxe, je vais m'arrêter là, c'est que finalement, tant que la laïcité n'était que ce que Debré appelle une laïcité d'incompétence. C'est-à-dire tant que l'école laïque se disait non concernée par les objets de la foi, on pouvait très facilement distinguer les croyances et les savoirs. L'école s'occupait des savoirs, et puis les familles s'occupaient des croyances. Et les deux... Mais quand il s'agit précisément, et c'est là où est le paradoxe, de faire advenir une laïcité d'intelligence, c'est-à-dire quand l'école se préoccupe des objets de la foi et cherche à avoir vis-à-vis de ces objets une approche qui ne soit plus l'approche de la foi, alors là, ça pose effectivement un problème qui est un problème tout à fait qu'il faut affronter. Alors comment surmonter le problème ? J'ai pas d'autre réponse, c'est la mienne en tout cas, hein, qu'il faut affronter le problème en faisant. Je veux dire, le bateau ne peut pas être construit en cale sèche pour après être mis sur l'eau. Il faut construire le bateau en naviguant. Et c'est-à-dire, en l'occurrence, c'est une métaphore évidemment, hein, vous avez bien compris, il ne s'agit pas de l'arche de Noé. C'est-à-dire voir comment et pourquoi cet enseignement marche quand il marche, afin de dégager des critères susceptibles de guider sa mise en œuvre. Quelle attitude de l'enseignant, quel climat de classe, quelle valeur globale partagée par la communauté éducative, quelle part de liberté réelle est-il faite à l'expression des élèves, etc., etc. Voilà. Pour moi, il y a une difficulté qui est de principe, qui fait que cet enseignement ne va pas de soi, et même les partisans dont je suis de cet enseignement doivent assumer le fait qu'il n'aille pas de soi. Et la seule solution, puisque c'était la question comment surmonter, bah c'est voilà, c'est mon histoire de bateau et de cale sèche. Voilà. C'est un risque. Chaque fois qu'on prend la mer, on risque de couler.
Merci pour ces premiers éléments de réponse. Philippe Forêt va prendre la parole.
Bien, bonjour à tout le monde. Je remercie les organisateurs du colloque pour leur invitation. Et je vais redire une fois pour toutes que moi aussi je vais répéter des choses qui ont déjà été dites. Mais je vais essayer du coup de porter un peu la controverse, parce qu'une table ronde a cet objectif aussi, par rapport à des éléments qui ont été formulé auparavant par Pierre en particulier, on a l'habitude, donc les controverses amicales ne sont pas des dangers pour nous. Je vais donc essayer de dire des choses peut-être un peu différentes, ou en tout cas d'exprimer des points de désaccord sur un certain nombre de choses. Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que ma position personnelle sur la question qui nous rassemble, c'est plutôt d'occuper le pôle instructionniste et ou patrimonial, pour reprendre le vocabulaire qui a été utilisé jusqu'à maintenant. Alors, en occupant cette position-là, il va de soi que l'enseignement des faits religieux à l'école laïque doit être considéré comme étant un enseignement absolument légitime. Il l'est depuis très longtemps, d'ailleurs, puisque les religions étaient déjà inscrites au programme des écoles de la Troisième République. On en a déjà parlé. La justification principale de cet enseignement est que les religions font partie du patrimoine de l'humanité, et que c'est un titre suffisant de légitimité. C'est un titre qui est suffisant pour récuser aussi bien la laïcité silencieuse, pour reprendre cette expression de Régis Debray, donc le fait que des enseignants gênés par cette question préfèrent la passer purement et simplement sous silence et traiter d'autres points du programme plutôt que de l'aborder. Donc, du point de vue qui est le mien, la laïcité silencieuse n'a évidemment pas de raison d'être. Et il va de soi aussi que cette position permet, j'insiste pas là-dessus, de se différencier de façon tout à fait claire de ce qui serait un enseignement religieux, donc un enseignement du catéchisme, comme celui qui a lieu dans d'autres pays voisins de la France et dont que Philippe Portier mentionnait ce matin. Pour dire les choses autrement, l'objectif ici, c'est l'idée d'acquérir une culture religieuse. Alors, le terme de culture, je me permets de le souligner un tout petit peu, puisque son ambiguïté même est digne d'intérêt. Quand je dis acquérir une culture religieuse, je prends le terme au sens où culture renvoie à se cultiver, c'est-à-dire désigne une formation intellectuelle sur les religions. Et ça s'oppose évidemment à l'idée de la culture comme forme de vie, comme appartenance, comme origine. Vous, comme moi, je pense que vous avez souvent l'occasion de discuter avec des gens qui vous diront qu'ils ne sont plus croyants, mais qui sont de culture chrétienne ou de culture musulmane, etc. Donc ici, le terme de culture désigne une origine ou une appartenance. Et bien sûr, dans la position que je voudrais défendre ici, ça n'est pas du tout en ce sens que le terme de culture est pris. Hein. Il s'agit d'acquérir des éléments de connaissance sur les religions, ou pour, là encore, dire la même chose avec un vocabulaire un tout petit peu différent. Il a été dit, évidemment, que les religions se composent principalement de faits de croyances, hein. L'objectif de l'école laïque ici, c'est de transformer ces faits de croyance en contenu de connaissance. Voilà, je dis rien de très original en soutenant cette position. Une première conséquence sur un point qui n'a pas été abordé ce matin, et donc là j'anticipe un peu ce que Isabelle Saint-Martin va dire, donc je m'en excuse, c'est que quand on adopte cette position, à mon avis, une conséquence que je défendrais, c'est que il vaut mieux, c'est à mon avis nécessaire, de ne pas parler du fait religieux au singulier, mais de parler des faits religieux au pluriel. Je pense que on a intérêt à parler de l'enseignement des faits religieux plutôt que de l'enseignement du fait religieux. Alors ça peut vous paraître un détail sémantique, et en partie ça l'est. Donc je me permets de me justifier un tout petit peu. L'expression au singulier, enseignement du fait religieux, véhicule un peu l'idée qu'on aurait là un fait anthropologique qui serait universel, qui ne souffrirait pas d'exception, comme s'il était, entre guillemets, dans la nature humaine, d'avoir un besoin de transcendance. Quelqu'un qui était présent à cette salle l'a dit. Je pense que, pour ma part, je pense que c'est difficile d'admettre ça a priori. Hein. D'autre part, le fait d'en parler au singulier, c'est peut-être un argument plus fort, ce deuxième argument dans mon esprit. Le fait de parler du fait singulier présuppose que, du fait religieux au singulier, pardon, présuppose qu'il y aurait un contenu qui serait commun à toutes les religions, hein, et qu'on pourrait exhiber. On pourrait exhiber une espèce de fait religieux par-delà les différentes religions historiques. Alors ça aussi, ça me paraît quelque chose qui est difficile d'admettre a priori. C'est pour le moins un objet d'étude et un objet de discussion. Et deuxième argument de ma part, à supposer même qu'il y en ait un de contenu commun, je ne suis pas persuadé pour ma part que ce contenu commun soit très intéressant. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de s'attacher aux différentes religions historiques existantes et de les étudier de façon précise plutôt que de s'en tenir à la formulation d'un ensemble de généralités et de points qui seraient censés être communs à toutes les religions. Pour ma part, je ne vois pas l'intérêt de cette deuxième perspective, alors que ça me paraît beaucoup plus conforme aux missions de l'école que de creuser les religions. Alors bien sûr, quand je soutiens cette position, une objection qui vient assez rapidement à l'esprit, c'est lesquelles choisir. Quand on en choisit certaines, on en élimine d'autres, donc comment on va faire ? J'ai pas de réponse concrète à cette question, mais je voudrais simplement dire que la réponse à cette question est exactement de même nature que celle que font tous les enseignants qui choisissent d'étudier telle œuvre d'art et qui abandonnent telle autre, qui choisissent d'étudier telle œuvre de littérature et qui laissent de côté telle autre, etc., etc. C'est un problème qui se pose fréquemment à l'école. On ne peut pas enseigner toutes les religions, de même qu'on n'enseigne pas toutes les œuvres d'art ou toutes les œuvres littéraires. Il y a toujours une sélection à faire. Voilà, je voudrais insister sur ce point de vocabulaire. Je pense que sous la question de vocabulaire, il y a une question conceptuelle qui n'est pas négligeable. Voilà pour ce qui est de l'exposé bref de cette position patrimoniale que je voudrais donc mettre en avant. Alors du coup, ça me conduit à dire un mot sur l'autre type de légitimation qui a été évoqué à plusieurs reprises ce matin et qui renvoie à globalement une légitimité d'ordre politique, une légitimité qui relie l'enseignement des faits religieux à l'éducation civique, qui va non plus insister sur une dimension d'enseignement, d'instruction, d'études et de culture, comme je le fais, mais plutôt sur une dimension éducative. Je commence par dire que si on regarde les différents textes qui ont paru sur cette question, on a vu effectivement, depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, tout un tas de justifications de l'enseignement des faits religieux être formulées. Des justifications d'ordre moral à une époque, des justifications sur la tolérance. On attendait de cet enseignement qu'il produise plus de tolérance entre les communautés. Des justifications aussi d'ordre civique. Ça a été suffisamment rappelé sur la question du lien que l'école devrait permettre d'instaurer dans une société caractérisée par un individualisme et un pluralisme constitutif. Voilà, je voudrais dire, pour porter la polémique, que je ne suis pas convaincu par ces justifications. Et donc je voudrais apporter un ou deux arguments sur ce point. C'est un discours, ce discours éducatif, ce discours civique est bien sûr un discours qui est répandu au sein de l'institution scolaire. C'est un discours très ancien. Moi, je pense, pour le dire de façon un peu provocatrice, que ça fait partie des histoires que l'école se raconte à elle-même. Mais deux choses simplement. La première, c'est que, évidemment, la question qui se pose ici est une question compliquée. Parce que il va de soi qu'on peut compter sur l'école pour produire tout un tas d'effets sociaux, d'effets en termes de tolérance, d'effets en termes de civisme, d'effets en termes de lien social. Et donc, on va être justifié d'une certaine manière à tenir ce genre de discours. Par exemple, compter sur l'enseignement des faits religieux pour créer plus de liens entre les communautés. Bref, je vois bien que c'est vrai. Mais je pense que ça n'est vrai que de façon très partielle. Je pense que ça n'est vrai que de façon assez secondaire, finalement. Et ce que je voudrais dire, alors je m'excuse de le dire de façon générale, j'ai pas d'autres moyens de le dire de manière plus précise que ça. Quand je suis confronté à ces discours-là, moi je pense inévitablement à Hannah Arendt et au très bel article qu'elle a écrit sur la crise de l'éducation en 1958, où elle soutient une thèse. Alors je dis que c'est un très bel article, c'est une façon de le défendre, c'est pas très honnête de ma part, mais c'est un article très discutable aussi par moments. Mais il y a vraiment une thèse qui me paraît extrêmement convaincante dans cet article. C'est la thèse selon laquelle nous ne devons pas demander aux enfants de résoudre les problèmes que les adultes ne sont pas capables de résoudre. Ça, je trouve que c'est une très belle thèse, et ça a des conséquences sur l'école, c'est-à-dire que on ne doit pas se débarrasser sur l'école des tâches qui sont des tâches politiques, des tâches qui concernent les adultes et non pas les enfants. Alors bien sûr, l'école est chargée de produire du lien social, bien sûr l'école est chargée de produire de l'intercompréhension entre les communautés, etc. Mais moi, ce que je voudrais dire sur ce point, en ayant conscience que c'est discutable, et j'espère que, en votre fort intérieur, vous allez discuter, ce que je voudrais dire sur ce point, c'est que si les adultes eux-mêmes, c'est-à-dire si la question n'est pas saisie politiquement d'abord, je ne vois pas bien en quoi l'action de l'école pourrait avoir la moindre influence. Voilà le point que je voudrais souligner pour porter la controverse. Donc bien sûr, les dimensions éducationnistes, les dimensions civiques, les dimensions politiques ont une place. Bon, je vois bien qu'elles ont une place. Mais à mon avis, elles ne peuvent avoir qu'une place d'appoint par rapport à une action qui doit être d'abord une action sociale et politique. Il faut que les communautés culturelles et religieuses s'entendent d'abord au niveau social, au niveau politique. Il faut que la citoyenneté ait un sens pour les adultes eux-mêmes. Et dans ces conditions, elle aura son sans doute un sens à l'école. Mais si nous sommes dans un cadre social où la citoyenneté laisse la place à l'indifférentisme, où il y a des conflits entre différentes communautés, etc., je ne vois pas pour ma part de quelle manière on pourrait confier à l'éducation des nouvelles générations et à l'école, donc, la tâche de résoudre des problèmes que la société elle-même n'est pas capable de résoudre. Voilà, c'est la raison pour laquelle je m'en tiens à cette position instructionniste et patrimoniale. J'ai aussi pensé, à propos de l'éducation physique et sportive, à une époque, je me suis dit, j'étudiais cette question, je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a une pluralité de justifications qui sont mises en avant pour justifier le bien fondé de cet enseignement. Je raisonne peut-être pas très bien, mais je me dis que quand on a besoin de trouver plusieurs justifications pour justifier quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose de suspect là-dedans. C'est qu'on ne peut pas arriver à se contenter d'une seule. Et pour ma part, pour l'EPS, c'est très clair, il y a une très belle justification, c'est que les pratiques sportives et les pratiques physiques sont tout à fait importantes pour l'éducation des enfants. Et je dirais la même chose pour l'enseignement des faits religieux. Je crois que la justification patrimoniale et la justification de culture, au sens de l'acquisition des connaissances, est tout à fait suffisante pour légitimer cet enseignement et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller en chercher plus. Voilà. Est-ce qu'il me reste quelques minutes ? Non ? Je reprendrai la parole tout à l'heure. Ah ben, il faut que tu me répondes. Allez, vas-y. C'est bien. Réponds-moi.
Il est sûr que cet enseignement, en tout cas dans la finalité éducative qui lui est assignée, peut être une histoire que l'école se raconte à elle-même. Mais on peut dire ça de beaucoup de choses, y compris de la fonction émancipatrice de l'école en général. Hein. On peut même considérer que la fonction émancipatrice, c'est une pure rhétorique, c'est une histoire, c'est une légende, la légende rose de l'école républicaine, etc. Et d'une certaine façon, un certain nombre d'ailleurs de travaux sociologiques tendent à montrer que, effectivement, ce genre de finalité qui est parfaitement admissible dans le ciel des idées, dès qu'on regarde un peu la façon dont ça se passe dans les classes, ça fonctionne pas. Et le décalage entre l'état de la société et ce qu'on voudrait que l'école fasse, il est manifeste. Et on pourrait dire aussi exactement la même chose, et je m'adresse un peu particulièrement à Philippe Portier, de l'enseignement moral et civique. Voilà, et ça a été dit d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs au moment où cet enseignement a été mis en place. Il faut faire attention qu'on ne soit pas schizophrène et que l'école n'enseigne pas ce que la société n'est pas capable de fournir comme exemple, hein, en termes de solidarité, en termes de justice, en termes de non-discrimination, etc., etc. Mais une réponse à cela, c'est de se demander à quelles conditions ça pourrait n'être pas qu'une histoire. Et je suis d'accord que il suffit pas d'enseigner le faire pour que cette finalité opère d'elle-même, d'une certaine façon, naturellement, hein, par sa propre force, un peu magiquement. Et les conditions auxquelles il faudrait satisfaire pour que l'école ne fasse pas dans ce domaine que se raconter une histoire, ce sont des conditions pédagogiques. Hein, et je veux dire, il y a des endroits où, je le disais tout à l'heure, ça marche et où ça produit cet effet-là. Et peut-être pas si marginalement qu'on le croit. Simplement, il faut savoir quel moment ces endroits sont organisés du point de vue pédagogique pour que ça produise ce genre de choses. Hein. Et effectivement, si on se contente de mettre à l'école telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne parfois d'un point de vue pédagogique, des enseignements des faits religieux, on peut penser que l'effet sera extrêmement marginal et secondaire. Si on s'interroge sur les conditions qui pourraient rendre ça un peu moins marginal et un peu moins secondaire, on n'aurait peut-être pas complètement tout à fait la même réponse.
Voilà. Pour faire vivre la polémique. Merci. Isabelle, est-ce que...
Merci. Alors, merci aux ordinateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque. Je parle ici au titre de l'expérience que j'ai pu acquérir pendant plus d'une dizaine d'années à l'IESR, créée à la suite du rapport de Régis Debray au sein de l'École pratique des hautes études. Et je vais essayer de donner quelques exemples concrets, quelques déclinaisons, mais qui vont vraiment croiser, malheureusement, de très près, ou heureusement, parce que c'est peut-être une bonne chose, ce qui a déjà été exposé depuis les propos de Philippe Portier, très, très éclairant ce matin, et ceux de Pierre Kahn et Philippe Forêt. Alors, la légitimité, puisque c'était le point de départ, on peut déjà relever une forme de légitimité institutionnelle de cet enseignement des faits religieux, en notant d'une part que parler de religion à l'école n'est pas exclu, n'est pas tabou. Il faut toujours le rappeler. Lorsqu'on est confronté à l'IESR à des demandes d'enseignants qui surgissent, est-ce qu'on a le droit d'étudier un texte qui parle de Dieu? Est-ce qu'on a le droit de faire chanter dans un cours de musique des chansons qui sont des chansons religieuses? Tout dépend évidemment si c'est là une pratique qui va dégénérer, enfin, ou évoluer vers quelque chose qui serait confessionnel, et la stricte séparation du confessionnel et de l'école laïque n'a plus à être rappelée depuis plus d'un siècle, mais la question est de considérer qu'il n'y a pas de sujet a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. La charte de la laïcité nous le rappelle, et donc aborder les faits religieux, aborder ce qui touche aux religions dans un cadre de savoir, de connaissance, dans cette démarche instructionniste ou patrimonial, comme on le disait tout à l'heure, non seulement ce n'est pas exclu de l'école, mais je reprendrai là aussi ce que disait Philippe Portier en conclusion, c'est mettre en marche, mettre en œuvre l'esprit de la laïcité. Dans une société laïque, les questions touchant aux religieux ne sont pas un tabou, ne sont pas réservées uniquement à un discours confessant, mais peuvent être, au même titre que d'autres questions, objet d'un examen critique et scientifique à l'intérieur des programmes scolaires. Il y a eu un point d'évolution par rapport à ce grand rappel dans le tournant qui a suivi les attentats de 2015, et c'est pourquoi je commence par là. Je vais refaire quelques petits rappels précédents, mais ça me paraît important de le souligner. C'est que dans la série des grandes mesures mises en place après les attentats, la grande mobilisation pour les valeurs de la République, vous vous en souvenez sans doute, au titre de la mesure 1, il était noté que des formations sur site à l'enseignement laïque des faits religieux serait conduite. Ce qui signifie que cet enseignement était étroitement associé à la question 1, transmission des valeurs de la République. Et là, si on refaisait en détail, je vous en ferai grâce heureusement, l'historique des débats depuis les rapports de 1982, on voit véritablement une inflexion qui l'associe beaucoup plus étroitement à cette question des valeurs de la République. Je vous rappelle qu'en 82, là aussi Philippe Portier l'a noté, lorsque la Ligue de l'enseignement relance le débat, c'est à l'époque dans le cadre du projet d'un grand enseignement public national qui mettrait fin à l'exception de l'école privée. Et la Ligue de l'enseignement veut répondre à ce questionnement en proposant qu'un cours d'histoire des religions, d'histoire comparée des religions, soit proposé de manière à répondre aux attentes de parents d'élèves. Donc il y a un contexte qui est quand même très particulier, qui est la réponse à ce grand débat des années 80 et à cette grande mobilisation que ça a suscité. Et on n'était pas du tout question à ce moment-là de considérer que l'histoire des religions, comme on disait alors, ou ce qui deviendrait l'enseignement des faits religieux, serait lié à la laïcité ou aux valeurs de la République. Donc je ne repasse pas toute cette série chronologique qui a été exposée, je voudrais m'intéresser au rapport de Régis Debray, qui donc ne tombe pas du ciel, mais s'inscrit dans un contexte de réflexion d'une bonne vingtaine d'années sur ce débat, et qui souhaite clarifier les choses en proposant une approche raisonnée des religions comme fait de civilisation, distinguer le religieux objet de culte du religieux objet de culture. Et Régis Debray se situe effectivement tout à fait dans la perspective Joutard, etc., dans une perspective patrimoniale. Pierre Kahne vient de nous rappeler les différences qu'il veut relever par rapport à cet objectif. Il s'agit d'étendre l'intelligence réflexive et critique en donnant accès à un univers symbolique. Alors, les éléments de débat pour Régis Debray étaient de ne pas limiter cet enseignement des faits religieux au cadre du cours d'histoire. Pourquoi ? Parce que si on s'en tient au manuel d'histoire, et là, ça serait intéressant d'avoir le temps de faire une comparaison vraiment beaucoup plus précise, on verrait que les changements ne sont pas si importants. En fait, dès les années, même dans cette période creuse qu'identifiait Philippe Portier des années 60-90, la place conférée à la question touchante à l'histoire des religions dans les manuels de l'histoire restait tout à fait présente. Je ne suis pas sûre qu'on verrait aujourd'hui, c'est un élément de débat que je lance, une modification quantitative substantielle. Mais en revanche, il y a des évolutions de présentation, c'est-à-dire qu'on met davantage l'accent sur « attention, telle double page, tel aspect du chapitre va concerner un enseignement des faits religieux ». Pour autant, des questions absolument essentielles comme l'histoire de l'islam, la naissance des grandes traditions religieuses, les Hébreux, les débuts du christianisme, comme les éléments du conflit au Proche-Orient, se trouvaient dans les manuels d'histoire dans une très longue durée. Et on voit des inflexions, on voit des éléments de programme qui montent ou qui descendent. Mais la tendance générale, c'est plutôt dans le qualitatif que dans le quantitatif que l'on pourrait l'observer. Il s'agissait donc de passer d'une laïcité d'incompétence à une laïcité d'intelligence, et je remercie Pierre Kahne de l'avoir recité également, parce que cette phrase est très souvent mentionnée et modifiée. Régis Debray ne se plaçait pas dans une polémique sur les adjectifs accordés à la laïcité. Il n'a jamais parlé d'une laïcité intelligente ni d'une laïcité d'ignorance. Vous trouverez régulièrement tous ces termes dans des commentaires de ce rapport qui ne sont pas revenus aux sources. Alors, cette mise en place du rapport a suscité, à travers l'expression « fait religieux », une double critique. Et là aussi, ça a été évoqué. Mais c'est intéressant de voir que derrière cette double critique, il y a vraiment deux postures qui se dégagent. La posture la crainte, en fait, à travers le singulier d'une expression du fait religieux, d'une visée anthropologique, considérant que toute civilisation se place nécessairement dans une perspective de relation à une transcendance, dans une perspective religieuse qui a été développée notamment par Catherine Kinsler et par d'autres aussi, faisait redouter un caractère trop englobant, obligeant tout un chacun à s'inscrire dans une relation religieuse, comme si ce fait religieux s'imposait à tous. C'est une des raisons pour lesquelles, à l'IUSR, et avec la bénédiction toute laïque de Régis Debray, nous avons fait le choix du pluriel pour insister sur cette pluralité des phénomènes religieux, sur le fait que les religions sont elles-mêmes tout à fait évolutives et plurielles. Il y a probablement autant à dire sur la façon dont elles évoluent et dont elles se distinguent et dont il y a des conflits internes qu'elles gèrent que dans le noyau dur qui les identifie. En reprenant une célèbre définition de Marcel Mauss que je vous remets à l'écran et que je ne relis pas, mais qui est tout à fait essentielle pour comprendre une étude raisonnée des faits religieux, donc dans ce choix de ce pluriel, et une étude des attitudes à l'égard du religieux qui doit englober également les questions d'athéisme, d'agnosticisme, d'anticléricalisme, qui sont aussi des manières de se situer par rapport au religieux. Alors, l'autre critique visait à considérer que derrière ce mot de fait, ce factuel, cette objectivité revendiquée, il y avait surtout une dévitalisation de ce qui fait l'essence du religieux, une manière, je dirais, de réduire l'enseignement des faits religieux à tout ce qui n'est pas la religion, de parler de tout ce qui serait le contexte sans aborder le cœur vivant de la foi. Alors, il est vrai que ce n'est pas à l'école laïque d'aborder la transmission de croyances, d'aborder le partage d'expériences, d'aborder le vécu intime de la foi. Pour autant, ça ne signifie pas qu'on observe que de l'extérieur des faits dont on ne réfléchit pas aux significations et aux engagements qu'ils suscitent dans les communautés qui s'en réclament. Aussi, si l'expression « fait religieux » propose une distance critique, il s'agit également de remonter des conséquences sociales et culturelles à l'étude des déterminations, des significations symboliques. Et là, tout ce qui peut être fait en littérature ou en histoire des arts vient compléter une approche menée en histoire, en sociologie, en sciences, si l'on aborde l'histoire des sciences. Donc, la double critique nous a vraiment amené à préférer ce pluriel, tout en notant aussi l'impossibilité de le traduire, par exemple, en anglais. Religious facts, ça serait des statistiques. Ça ne serait uniquement cet observable de l'extérieur qui ne correspond pas du tout, encore une fois, à la place accordée dans les programmes scolaires en France à la question de l'enseignement des faits religieux. Mais on voit bien que derrière ces deux types de critiques, il y a aussi deux types de postures. L'une qui voudrait privilégier à travers une approche historique et critique la construction tout à fait située et contextualisée des religions, et une autre qui pourrait tendre à vouloir aborder l'aujourd'hui des croyances de manière parfois essentialisée, comme s'il s'agissait d'observer ce que de tout temps et par essence pense un chrétien, un musulman, un juif. Donc c'est vraiment à travers ces deux postures et dans une ligne de crête que se développe cet enseignement des faits religieux. Alors, les objectifs, on en a déjà parlé, hein, en distinguant la compréhension d'un univers symbolique, la question de l'historicisation et la découverte du monde contemporain. Et là, c'était un aspect sur lequel Régis Debray insistait beaucoup. Je vous rappelle que son rapport a été commandé dans les moments qui ont suivi les attentats de 2001. Et la question de la compréhension du monde contemporain lui paraissait insuffisante à travers la place accordée aux faits religieux, notamment dans les programmes d'histoire. Et ça reste largement vrai encore aujourd'hui. C'est un point sur lequel on pourrait discuter. La naissance, les origines des religions sont bien présentées en général dans les programmes, mais leur évolution dans le temps et notamment leur prise en compte dans le monde contemporain a tendance à diminuer très largement, comme si, passé la Révolution française, il n'était plus véritablement nécessaire de prendre en compte le substrat religieux des sociétés dans leur pourtant beaucoup plus grande pluralité. Donc c'est un point encore de débat et de réflexion sur les formes de légitimité de cet enseignement. L'argument civique, améliorer la connaissance de l'autre et le vivre ensemble dans une société pluraliste, est certes très présent dans le rapport Debray. Il était déjà sous-jacent, et je suis tout à fait d'accord avec la remarque de Pierre Kahne, dans le rapport Joutard. On le voyait affleurer, il n'était pas en premier, mais on le voyait déjà affleurer derrière l'argument patrimonial. Et chacun a des biais, et le mien est celui de ma formation initiale d'historienne de l'art. J'ai beaucoup de mal à critiquer l'argument patrimonial, et j'ai surtout beaucoup de mal à le considérer comme un argument passéiste visant à muséographier les religions, comme on l'entend dire quelquefois. Je crois que la question patrimoine et patrimoniale, c'est aussi et toujours une question vivante, que la question de la culture et de l'instruction, c'est ce qui forme les capacités de réflexion du citoyen, et que en cela, c'est déjà un argument civique en soi. Donc il me semble qu'il y a largement de quoi défendre la légitimité de l'enseignement des faits religieux à travers cet argument de la connaissance et cette prise en compte. Donc voilà, je rappelle ici quelques compétences interdisciplinaires qui sont attendues de cet enseignement des faits religieux à travers les programmes, de cette prise en compte du choix français, qui a été évoqué dans différents éléments, socle commun de 2004, socle de 2015, comprendre la diversité des représentations par lesquelles les femmes et les hommes tentent de comprendre la condition humaine et le monde dans lequel ils vivent. les éléments clés de l'histoire des idées, des faits religieux et des convictions. Et là, il y a une inflexion dans le socle de 2015 par rapport au socle précédent, de bien avoir associé la question des convictions avec celle des faits religieux. Je crois que c'est la nécessité de bien rappeler que lorsqu'on étudie l'ensemble de ces postures à l'égard du religieux, les questions d'athéisme et d'agnosticisme, encore une fois, sont à prendre en compte avec la même place. Pour faire un élément de rappel, là aussi, la position de Buisson a été citée. Alors, les raisons institutionnelles, épistémologiques et idéologiques de ce choix d'une approche transdisciplinaire, la question de Thierry Machua tout à l'heure a permis de la préciser, caractérisent effectivement la position française. Et à l'IUSR, nous sommes amenés à faire des comparaisons avec différents pays européens. Et on voit bien à quel point il est difficile pour nos collègues d'autres pays, et également bien souvent pour des journalistes qui veulent savoir où on en est depuis le rapport Debré, et qui ne voient pas une heure identifiée dans les programmes scolaires, il apparaît difficile d'identifier ce qui a été fait et de voir quels sont les points d'avancement. Il me semble quand même que... pardon, je suis peut-être un peu trop longue... Je vais abréger dans mon propos. Je voulais juste rappeler que ce choix qui a une valeur épistémologique propre de pouvoir contextualiser et aborder les faits religieux à travers les disciplines, à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois que ça prend sens dans le cadre du programme. Ce choix a aussi une valeur d'efficacité. Et là, je cite l'exemple qui m'a été donné au Québec lorsque j'avais fait cette exposition, où des collègues sont venus me voir après en disant « Au Québec, nous avons une heure spécifique. Il y a cette heure dédiée à un enseignement d'éthique et culture religieuse, ECR. Mais le problème, c'est que c'est, entre guillemets, une petite matière. » Donc, une petite matière, ça veut dire que ça compte moins, que les élèves se moquent de l'évaluation. Ça peut être sympathique, mais ça n'a pas le même poids. Or, en passant à travers les programmes, les disciplines scolaires existantes, lorsque les faits religieux sont abordés, même si, effectivement, ils n'ont pas un horaire cadré comme l'EMC, lorsque ces faits sont abordés, ce sont des éléments du programme au même titre que les autres. Je veux dire par là que le chapitre sur la naissance de l'islam, il a la même valeur dans la moyenne que celui sur la Révolution française. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas indifférent de voir que ces questions sont traitées à travers le programme, en français et en histoire, avec la même valeur. Je crois que dans le bref historique qu'on a fait, je pense qu'il faut revenir aussi sur la date de 1996, mise en place des programmes de 1995, lorsque dans le cours de français, des pages d'extraits de la Bible vont reprendre place dans les manuels scolaires. Là, il y a vraiment quelque chose qui est un grand bouleversement par rapport à l'exclusion de l'histoire sainte depuis les années 1880. Ce n'est pas au titre de l'histoire sainte, c'est au titre d'un texte littéraire, c'est au titre des textes fondateurs, hein, récits fondateurs, les appellations ont changé. C'est une lecture littéraire et contextualisé du récit, mais néanmoins, c'est redonner sa place à ces récits au sein de la culture scolaire. Alors, bien sûr, il y a des contestations et des débats sur la légitimité de cet enseignement. Je vais sauter un petit peu tout ça parce que je crois qu'il faut que je m'approche plutôt d'une conclusion. Je reviens sur les points peut-être d'achoppement, les points de critique. J'avais prévu de donner des exemples, mais le temps ne me le permet pas. Il me semble que la présence de ces faits religieux à travers les disciplines est tout à fait reconnue et manifeste, mais que leur place varie en fonction des évolutions des programmes. Et donc, comme je le disais en point de comparaison, il y a des moments où certains aspects vont être mieux pris en compte et d'autres moins. Et il y a de ce fait un nécessaire éclatement de cette approche des faits religieux et une difficulté de lisibilité et de prise en compte d'une forme de continuité dans les réflexions, avec comme corollaire d'une fixation sur les origines, potentiellement un discours qui valorise une approche un peu essentialisée des religions comme naissant par elles-mêmes, toutes constituées de dogmes, de rites, de récits fondateurs clairement établis, alors que cela s'est élaboré au fil des siècles, alors que à l'intérieur de ces traditions religieuses, il y a des éléments de débat et que c'est vraiment à travers une approche plus historique qu'on peut mieux les prendre en compte. D'où les critiques, par exemple, sur la légitimité de cet enseignement qui sont venues cette année même de la présidente du Conseil supérieur des programmes à propos de la présentation de l'islam dans les manuels scolaires qu'elle jugeait insuffisamment contextualisée. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que la tendance en fait à malgré tout en parler majoritairement à travers les cours d'histoire et majoritairement pour les sociétés du passé et majoritairement à propos des origines apporte certes des éléments de connaissance intéressants mais peut aussi potentiellement selon la mise en œuvre qui en est faite risquer de renforcer des lectures fondamentalistes. C'est pour ça qu'il me paraît important de pouvoir associer ça à d'autres formes de prise en compte dans les programmes en croisant littérature, histoire des arts, approche anthropologique et en ayant le soin de contextualiser et d'aborder jusqu'au contemporain ce type de questionnement.